Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères et frères, chers fidèles, il est important à chaque messe de regarder attentivement l'oraison du jour. Cette oraison, c'est ce que l'Église demande pour nous par la vertu du sacrifice de notre Seigneur. Arrêtons-nous donc quelques instants sur l'oraison de la fête de saint Thomas d'Aquin pour connaître les grâces que cette fête peut nous apporter. Ô Dieu, qui éclairez votre Église par la science admirable du bienheureux Thomas, votre confesseur et docteur, et qui l'a fécondé par la sainteté de ses œuvres, donnez-nous, nous vous le demandons, de comprendre son enseignement et d'imiter ce qu'il a fait. Da nobis quesumus, et que docuit intellectu conspicere, et que egit imitatione complere. Imiter sa vie, c'est la grâce que l'Église demande pour nous à chaque fête de saints. C'est pour cela que les saints ont été suscités, pour nous servir d'exemple. Comprendre l'enseignement de saint Thomas, l'Église a fait de la doctrine de saint Thomas sa doctrine. Elle nous invite ici à nous mettre à son école. Mais commençons par les vertus que l'Église a proposées à notre imitation en canonisant notre saint. S'il a été canonisé, c'est parce qu'il a pratiqué toutes les vertus à un degré héroïque, ce qui n'est d'ailleurs plus examiné dans les canonisations actuelles, ce qui conduit à des canonisations douteuses quand elles ne sont pas invalides et scandaleuses. Mais pour revenir à saint Thomas d'Aquin, comme nous ne pouvons analyser ici ses vertus les unes après les autres, arrêtons-nous à la vertu centrale, la charité. Pour pénétrer un peu l'âme de saint Thomas, nous laisserons parler lui-même de la charité. Il explique ce qu'il a vécu. La charité, explique-t-il, ordonne les actes de toutes les vertus à notre fin ultime. C'est elle, en effet, qui rend méritoire les actes de toutes les autres vertus, et sans elle, les actions même les plus héroïques n'ont aucune valeur pour notre éternité. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien, dit saint Paul. Ceci veut dire que la charité n'est pas un simple humanitarisme, comme on le croit trop souvent aujourd'hui. D'abord, elle ne peut exister si l'on n'est pas en état de grâce. Elle est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu dans notre âme, avec la grâce sanctifiante. Ensuite, ce n'est pas d'abord une vertu qui règle nos rapports avec le prochain, comme on pourrait le croire aussi. La charité règle d'abord nos rapports avec Dieu. En unissant notre volonté à la volonté de Dieu, elle nous fait aimer Dieu pour lui-même, totalement et sans mesure, dit saint Thomas. Elle nous fait aimer Dieu pour lui-même. En effet, dit-il, Dieu est la fin dernière de tous les êtres. Donc, il est le but vers lequel nous nous dirigeons tous. Il est l'idéal de toute perfection, continue-t-il. C'est-à-dire qu'il est la perfection infinie, renfermant en lui-même bien plus que ce qui nous attire chez les autres créatures. Il n'y a donc rien ni personne qui pourrait être aimé plus que Dieu. Il est le seul aboutissement de tous les désirs de bonheur des hommes. On ne peut pas l'aimer pour autre chose que lui, on ne peut l'aimer que pour lui-même. Dieu seul est plus grand que l'âme, disait sainte Thérèse d'Avila. Dieu doit être aimé totalement. C'est le grand commandement de la charité, rappelé par notre Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. En conséquence, dit saint Thomas, tout ce qu'a l'homme, il doit le rapporter à l'amour de Dieu. Autrement dit, l'amour de Dieu doit dominer totalement notre vie. Enfin, saint Thomas en conclut que Dieu doit être aimé sans mesure. Nous devons en effet aimer Dieu sans mesure, parce qu'en lui, nous ne trouvons aucune limite, aucune imperfection qui limiterait notre amour. Contrairement à ce qui se passe avec les autres créatures, qui sont toutes imparfaites, dans notre vie, nous trouverons toujours de nouveaux motifs d'aimer Dieu. Et il n'y a pas de raison que cela s'arrête. On connaît le mot de saint Bernard, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Mais si saint Thomas a si magnifiquement parlé de la charité, c'est parce qu'il en vivait. La nuit, il priait dans l'église, et quand les matines sonnaient, il regagnait discrètement sa cellule pour en sortir comme si de rien n'était, afin qu'on ne sache pas qu'il avait passé tout ce temps en prière dans l'église. Dans notre ordre, des dispenses de l'office choral sont possibles pour raison d'étude. Il y aurait eu droit, étant donné ses occupations si précieuses pour l'église. Mais il n'en demandait jamais. Et l'office terminé, il vaquait à l'oraison, pendant laquelle il versait d'abondantes larmes. C'est là qu'il puisa le principal de sa science et aussi au pied de son crucifix dans sa cellule. En célébrant la messe, il versait là aussi d'abondantes larmes et il servait souvent une deuxième messe en action de grâce. Il écrivit de très belles prières pour aider à mieux célébrer et communier, dont l'Anima Christi, la Dorothée. Il composa aussi des prières pour d'autres occasions, la confession, la prédication, l'étude, le recours à Notre-Dame. La première grâce que nous pouvons demander en cette fête de saint Thomas d'Aquin, c'est que l'amour de Dieu domine totalement notre vie, comme il nous l'a expliqué et comme il l'a vécu lui-même. Ce qui veut dire accomplir nos devoirs quotidiens et d'abord les actes de notre vie de prière, par amour de notre Seigneur et non de manière trop extérieure. Écoutons ce que dit le Sacré-Cœur à sœur Josefa Menendez à propos de la manière dont une personne faisait action de grâce après la communion. Quand cet homme me reçoit dans la communion, dit-il, elle me dit à peine une parole. Elle est distraite, lasse, contrariée. Ses affaires l'absorbent, sa famille l'inquiète, son entourage lui pèse, sa santé la préoccupe. Elle ne sait que me dire, elle est froide, elle s'ennuie, il lui tarde de partir. Homme choisi que j'attendais pour me reposer en elle et alléger ses inquiétudes, je lui avais préparé de nouvelles grâces, elle ne les désire même pas. Elle ne me demande rien, ni conseil, ni force. Elle se plaint seulement, et sans même s'adresser à moi. Il semble qu'elle ne soit venue à la communion que pour remplir une formalité ou suivre la coutume, et parce qu'aucune faute grave ne la retient. Mais ce n'est pas l'amour qui la presse, ni le vrai désir de s'unir intimement à moi. Non, cette âme n'a pas les délicatesses que mon cœur espérait du sien. Puissions-nous ne pas subir ce reproche? Alors prenons la résolution de renouveler, au commencement de chacune de nos principales actions, l'intention d'agir par amour de notre Seigneur. Passons maintenant à la deuxième demande formulée par l'Église dans l'oraison d'aujourd'hui, comprendre l'enseignement de saint Thomas. C'est un nouvel aspect du saint qui est ici envisagé, saint Thomas en tant que docteur. L'Église lui a d'ailleurs décerné le titre de docteur commun. Nous ne nous éloignons pas du premier aspect du saint dont nous avons parlé, sa charité pour Dieu. L'amour de Dieu nous enflamme du désir de contempler sa beauté, dit saint Thomas. Et cette contemplation elle-même rend l'amour de Dieu plus intense. Saint Thomas nous enseigne ici que la charité est contemplative. Et ce qu'il découvrait dans sa contemplation, avec l'aide des dons de science, d'intelligence et de sagesse, sa charité le poussait à en faire profiter son prochain. Parce que si par la charité nous sommes unis à la volonté de Dieu, nous voudrons pour le prochain ce que Dieu veut pour lui, c'est-à-dire Dieu lui-même. La raison d'aimer le prochain, dit saint Thomas, c'est-à-dire ce pourquoi nous devons aimer notre prochain, c'est Dieu. Ce que nous devons en effet aimer dans le prochain, c'est qu'il soit en Dieu. Mais la première chose à faire pour que le prochain soit en Dieu, c'est de le mettre dans la vérité. Parce que c'est la foi qui est le commencement du salut. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, dit saint Paul. Saint Thomas a donc passé toute sa vie à donner Dieu aux âmes, en leur livrant le fruit de sa contemplation. Il est plus parfait, dira-t-il, d'éclairer que de voir seulement la lumière. De communiquer aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. C'est ainsi qu'il a commenté avec les pères de l'Église presque toute la Sainte Écriture et qu'il a laissé une œuvre philosophique et théologique qui guidera l'Église jusqu'à la fin des temps, son œuvre la plus célèbre étant sa Somme théologique. Lorsque l'Église, dans le raison de la fête de saint Thomas, nous fait demander la grâce de comprendre son enseignement, elle s'adresse d'abord aux évêques et aux prêtres, à ceux qui ont le devoir d'enseigner et de prêcher la doctrine sacrée. Dans le code traditionnel de droit canon, elle fait même un devoir aux professeurs chargés de préparer les candidats au sacerdoce de s'en tenir pour la philosophie et la théologie, à la méthode, aux principes et à la doctrine de saint Thomas. Dans notre ordre, le régent des études, les pères maîtres des frères étudiants et des novices, les professeurs, les prédicateurs, doivent faire le serment de s'en tenir à la doctrine de saint Thomas. Pourquoi une telle insistance de l'Église? Tout au long des siècles, les pontifes romains n'ont cessé de proclamer la supériorité de la doctrine de saint Thomas. Écoutons par exemple le pape Léon XIII. Sa doctrine est si vaste, dit-il, qu'elle contient, comme une mer, toute la sagesse de l'Antiquité. Toutes les vérités émises, toutes les questions sagement traitées par les philosophes païens, par les pères et les docteurs de l'Église, par les hommes supérieurs qui florissaient avant lui, non seulement il les a pleinement connues, mais il les a accrues, complétées, résolues, avec une intelligence si supérieure, une telle perfection de méthode et une telle propriété de termes, qu'il semble avoir laissé à ceux qui le suivraient la faculté de l'imiter, mais leur avoir ôté la possibilité de l'égaler. Sa doctrine possède encore ce grand avantage que, munie de principes d'une grande largeur d'application, elle répond aux nécessités non pas d'une époque, mais de tous les temps, et qu'elle est très propre à vaincre les erreurs sans cesse renaissantes. Se soutenant par sa propre force et sa propre valeur, elle reste invincible et cause aux adversaires un effroi profond. Fidèle à l'esprit de l'Église, Mgr Lefebvre insistait auprès de ses prêtres pour qu'ils expliquent aux fidèles la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Ne croyons pas, disait-il, que saint Thomas soit loin de l'esprit des fidèles et loin de la foi qu'ils doivent avoir. Ce n'est pas vrai du tout. La philosophie et la théologie de saint Thomas sont la vérité. N'allons pas dire que la vérité telle qu'elle est exposée dans sa simplicité, dans sa clarté, dans sa logique, ne peut pas être comprise par les fidèles. Ce serait à désespérer de parler aux fidèles. Évidemment, il faut savoir l'exprimer, l'exposer. Mais ces principes sont admirables. Hier, le martyrologe nous disait que la doctrine de saint Thomas a été approuvée par notre Seigneur lui-même. Ainsi, après qu'il eut terminé son traité sur l'Eucharistie, notre Seigneur lui apparut devant plusieurs témoins et lui donna cet encouragement. « Thomas, tu as bien écrit du sacrement de mon corps et de mon sang. Tu as résolu et traité cette question autant qu'elle peut être comprise en cette vie par une intelligence humaine. » Et à la fin de sa vie au couvent de Naples, dans la nuit, avant l'office de matine, notre Seigneur lui apparut pour approuver cette foi toute son œuvre. « Tu as bien écrit de moi, Thomas, quelle sera ta récompense ? Seigneur, pas d'autre que vous-même. » Dès ce moment, saint Thomas cessa d'écrire pour se préparer à la mort. En notre époque de désorientation complète des esprits, aussi bien dans l'Église que dans la société temporelle, recourons à saint Thomas d'Aquin. Mais commençons par le commencement. Imitons d'abord son exemple de sainteté, comme nous y invite l'oraison de ce jour, en particulier sa dévotion à la Sainte Messe et au sacrement de l'Eucharistie. Et nourrissons notre âme de ses enseignements pour vivre de la vérité, la répandre et repousser les erreurs qui tuent l'Église et le monde aujourd'hui et qui entraînent les âmes en enfer. Demandons cette grâce au cours de cette messe par l'intermédiaire de saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.